Radio Prague, les informations.
Le président Klaus a commencé une visite de 3 jours en Égypte. Le principal accord sur le radar américain en Tchéquie sera signé au début de mai. La société française Faurecia en pleine expansion en Tchéquie. Le président Václav Klaus est en visite en Égypte pour une durée de 3 jours avec son homologue égyptien Hosni Moubarak. Il a surtout été question de la coopération économique. Au programme aussi lundi soir, l'inauguration d'une exposition retraçant un demi-siècle de présence d'archéologues tchèques en Égypte, ainsi qu'une conférence dans le cadre du Forum économique tchéco-égyptien. C'est la toute première visite d'un chef de l'État tchèque en Égypte. Hosni Moubarak était lui venu en visite à Prague en 1994. La secrétaire d'État Condoleezza Rice signera le principal accord sur l'installation de la base radar américaine sur le territoire tchèque au début du mois de mai à Prague. Cela a été annoncé ce lundi par l'ambassade des États-Unis. L'ambassade américaine avait déjà laissé entendre pendant le week-end que Condoleezza Rice viendrait à Prague, mais sans préciser de date. Pour la partie tchèque, ce sera le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, qui signera cet accord. À une conférence de presse, le ministre de la Santé, Tomáš Julínek, a présenté son plan de réforme de la santé, donc aussi des compagnies d'assurance maladie. La plus importante, la Compagnie Générale d'Assurance Maladie, devrait devenir la propriété de l'État. Les autres compagnies devraient être transformées en sociétés par action, et donc privées. D'ici à la fin de cette année, il devrait y avoir 2000 points de contact, les checkpoints, en République tchèque. Ils sont destinés au contact entre les administrés et l'administration et on peut y régler beaucoup de formalités en moins de temps que dans les bureaux classiques. Le ministère de l'Intérieur, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, compte installer des checkpoints aussi dans les pays de l'Union européenne pour faciliter les formalités aux Tchèques qui y résident. Le fabricant français de pièces automobiles, Faurecia, a réalisé son plus gros investissement l'année dernière en construisant 3 nouvelles usines dans la zone industrielle de Písek, en Bohême du Sud. Un investissement d'une valeur de 50 millions d'euros. Elle rencontre des problèmes dans le recrutement et a décidé d'employer des Vietnamiens qui viendraient directement de leur pays. 100 pour commencer. Faurecia possède 6 usines en Tchéquie et fournit ses produits à Škoda, Volkswagen, Seat, Renault, Peugeot, Citroën, Opel et d'autres grandes marques. Le mauvais temps qui règne sous l'hémisphère nord pose de sérieux problèmes à 2 expéditions polaires tchèques, alors que samedi un avion historique de type L-200 Morava a atteint le pôle nord avec son équipage tchèque, une autre expédition de 5 tchèques qui marche vers le pôle est toujours en route. On pense qu'elle y arrivera d'ici à la fin de la semaine. La météo pour terminer, une météo qui ne nous promet pas d'amélioration du mauvais temps qui règne depuis quelques jours sur la Tchéquie. Bien au contraire, cela devrait encore empirer avec la mise en garde des services routiers d'ailleurs contre du verglas qui devrait toucher tout le territoire, cela depuis lundi soir et pendant toute la matinée de mardi. Attention aussi au brouillard givrant, le thermomètre grimpera quand même vers les 10 degrés dans la journée. Bonne fête au EMA, le 8 avril. C'était Alain Slivinski, les informations sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ces premiers faits et événements de la semaine, avec aujourd'hui les discussions sur le radar américain en République tchèque, discussions entre George W. Bush et Vladimir Poutine ce week-end à Sochi, mais discussions aussi à Prague où la perspective de laisser aux Russes le droit d'inspecter une future base militaire sur le sol tchèque ne réjouit personne. Direction le pôle Nord ensuite avec plusieurs expéditions tchèques en ce moment, dont une avec un authentique avion des années 50. Reportage enfin à l'université Charles de Prague, une université qui fête cette année son 660e anniversaire. Tout ça, ce sera avant de parler sport avec Guillaume Narguet et avant un peu de musique avec notre mélomane de service Václav Richter. Nous vous souhaitons une agréable réception où que vous soyez dans le monde. Et ce lundi encore, le radar américain est en une de tous les quotidiens tchèques. Après le sommet de l'OTAN en fin de semaine à Bucarest, la défense antimissile a été l'un des principaux thèmes abordés ce week-end par les présidents américains et russes à Sochi, sur les bords de la mer Noire. La Russie et les États-Unis s'opposent sur le projet de Washington de déploiement en Pologne et en République tchèque d'éléments d'un bouclier antimissile. Washington assure que ce bouclier vise à répondre aux éventuelles menaces d'États voyous comme l'Iran. De son côté, Moscou affirme qu'il s'agit d'une menace directe à ses frontières. Évoquant une troisième voie, George Bush et Vladimir Poutine ont exprimé leur intérêt pour la création d'un système de défense antimissile commun dans lequel la Russie, les États-Unis et l'Europe participeraient à part égale. Une troisième voie qui ne plaît guère à Varsovie et encore moins à Prague, la perspective d'une présence militaire russe permanente en Bohême pour inspecter le radar est rejetée tant par l'opposition tchèque que par le gouvernement. Le sujet est sensible, 40 ans après l'invasion soviétique de 1968, une expression tchèque qui date du traumatisme des accords de Munich de 1938 est aujourd'hui régulièrement employée, « onas bez nas », sur nous, sans nous en français. C'est lorsque les grandes puissances décident de ce qui va se passer sur le territoire tchèque sans le consentement des Tchèques. Mais pour le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, pas question en 2008 de se laisser dicter les conditions de la potentielle installation de la base radar. On l'écoute.
Aucun accord sur nous sans nous n'a été passé. Il n'est pas question qu'il y en ait un à l'avenir. Si d'aventure les Russes étaient intéressés par la possibilité d'inspecter la base, alors ils vont devoir commencer à en discuter avec nous pour négocier. Mais pour le moment, ils ne nous ont rien demandé et les Américains le savent, comme le savent les Russes aussi. Nous leur avons dit clairement que toute tentative de négociation sans nous serait nulle et non avenue. Cela n'arrivera plus.
Les Tchèques refusent donc le moindre accord sur eux, sans eux, mais un accord entre eux est également loin d'être acquis. Les traités passés avec les Américains doivent encore être conclus, puis signés et surtout ratifiés par le Parlement. Et selon les informations recueillies par le quotidien Hospodarske Noviny, 5 des 101 députés sur lesquels s'appuie l'actuelle coalition gouvernementale ne sont pas vraiment pro-radar, notamment dans le Parti des Verts, dont certains responsables ont appelé à voter contre la base américaine. Le vote au Parlement pourrait avoir lieu d'ici l'été. En cas d'échec, il n'y a pas de plan B, c'est ce que concède le vice-premier ministre Alexander Vondra. Le pôle Nord conquis par les Tchèques, on y croirait presque. En tout cas, 3 expéditions de Tchèques se déroulent ou se sont déroulées presque simultanément sur Terre et dans les airs. Détail avec Anna Kubishta.
C'est samedi à 19h05 que le petit appareil répondant au doux nom d'Aero L200 Morava a atteint le pôle Nord. À son bord, Peter Bolt, 64 ans, ancien coureur automobile, et Richard Santus, 34 ans, pilote également dans le civil. L'avion est un appareil historique, fabriqué dans les années 50 en Tchécoslovaquie. Sa production a cessé en 1964. Une façon aussi pour les deux aventuriers de célébrer 90 ans d'aviation tchèque. Parti de l'aéroport situé sur l'île norvégienne de Spitsberg, le vol a duré 10h40 jusqu'au pôle Nord où, après avoir survolé pendant 2 minutes cette extrémité de la planète, l'avion est reparti en direction de la base polaire russe de Barnéo. C'est là que Peter Bolt a évoqué la dureté des conditions, des vents violents et près d'1 heure pour ravitailler l'avion en carburant par moins 25 degrés. L'expédition était partie de Prague le 1er avril. Maintenant, les deux pilotes sont sur la route du retour et ils devraient être de retour dans la capitale tchèque jeudi. Pendant ce temps-là, un autre duo d'intrépides est en route depuis le lendemain de Pâques vers le pôle, à ski cette fois. Pour Peter Horky et son comparse Miroslav Jakesh, qui en est lui à sa 6e expédition polaire, c'est 200 km qu'il leur faut parcourir dans des conditions extrêmes. Peter Horky tourne à cette occasion un documentaire et avant son départ, il avait évoqué au micro de Radio Prague quel était le matériel nécessaire pour une expédition semblable.
Le principe pour les vêtements n'a pas changé du tout depuis l'époque de l'expédition d'Amundsen. Ils avaient pensé à tout. Il n'y a que les matériaux qui ont changé. La différence, c'est qu'eux devaient transporter des manteaux de fourrure qui pesaient des dizaines de kilos. Nous avons des vêtements faits en matériaux qui ne pèsent pas grand-chose. Mais sinon, il faut avoir plusieurs couches sur soi. Dès qu'on s'arrête, enfiler un blouson fait de plumes, mais ne pas le porter en marchant pour ne pas transpirer, par exemple.
Et en plus de documentaire, Peter Horky poursuit un autre objectif.
Je veux voir de mes propres yeux s'il y a oui ou non un réchauffement de la planète. Je veux voir s'il y a moins de glace ou pas. Je veux comparer des photos d'autrefois et des photos aujourd'hui. Je veux parler avec des personnes qui vivent là-bas depuis plusieurs années.
Pour l'heure, aux dernières nouvelles, Horki et Akesh n'ont parcouru qu'environ 80 km sur les 200. Les difficiles conditions météorologiques retardant l'équipée, ainsi qu'un imprévu de taille. Un aventurier venu d'Amérique du Sud et qui semble avoir un peu préjugé de ses capacités de résistance en solitaire. Même problème de météo pour la troisième expédition, enfin, celle à laquelle participe Melouche Netoletska, qui espère bien être la toute première femme tchèque à atteindre le pôle Nord. Les deux expéditions sont censées atteindre leurs objectifs respectifs à la fin de cette semaine. Affaire à suivre donc.
Le 7 avril, la République tchèque commémore le 660e anniversaire de la fondation de l'Université Charles, la plus ancienne université d'Europe centrale, créée en 1348 par le roi Charles IV. Les assises d'Europeum, une alliance d'universités européennes, des journées portes ouvertes et d'autres événements s'inscrivent dans le cadre de ces célébrations qui auront lieu pendant toute la semaine à Prague et Jarka Gisubelova est allée y faire un tour.
Commençons par la journée porte ouverte samedi et dimanche, dans les locaux historiques du Kraulinum, rendant accessibles les espaces souterrains romans et gothiques, les salles baroques d'apparat et notamment la grande aula solennelle où se déroulent les cérémonies de remise des diplômes. Un petit retour en arrière avec Marie Stemberkova de l'Institut d'Histoire et des Archives de l'Université Charles.
La fondation de l'université était d'une importance énorme. C'était la première université en Europe centrale. Le roi Charles IV l'a fondée sur le modèle de la Sorbonne, car il a vécu en France et pris connaissance du milieu académique, bien qu'il n'ait pas été un étudiant de la Sorbonne. Au moment de sa fondation, le 7 avril 1348, l'université pragoise possédait 4 facultés. Théologie, droit, médecine et art, la future faculté des lettres en fait. Au départ, elle n'avait pas ses propres locaux, les cours étaient donnés dans des couvents pragois et ce n'est qu'en 1366 que le collège carolien, le Carolinum, a été fondé.
Au fil des siècles, l'université a connu de nombreux changements. À partir de 1556, elle a rivalisé avec l'université jésuite, nouvellement fondée à Prague, ayant son siège à Clementinum. En 1882, l'université est divisée selon le principe linguistique en tchèque et allemande, et jusqu'en 1918, elle s'appelle Karlo-Ferdinandienne, pour revenir avec la création de la Tchécoslovaquie au nom de son fondateur. Pour les commémorations de son 660e anniversaire, les représentants de 10 universités européennes réunies au sein du réseau Europeanum sont venus à Prague. L'un des buts de ce réseau est de faciliter la mobilité des enseignants et des étudiants. Ainsi, les étudiants tchèques font des stages en Europe et aux États-Unis. Et c'est vrai aussi, dans le sens inverse, on écoute le recteur de l'université Charles, Václav Hampl.
Oui, et c'est l'une des choses dont nous sommes effectivement très fiers, car comme il ressort d'une récente statistique de l'Union européenne relative au programme d'échange Socrates et Erasmus, l'Université Charles fait partie des 10 meilleures universités européennes sur plus d'un millier de participants. Quant à l'intérêt des étudiants européens pour effectuer un stage, l'Université Charles est 5e sur cette échelle.
Dans ses 17 facultés à Prague, Plzeň et Hradec Králové, l'Université Charles propose pas moins de 600 programmes d'études accrédités. Actuellement, plus de 48 000 étudiants y font leurs études, dont près de 1400 peuvent suivre leurs études en anglais. Chaque étudiant peut pendant un ou deux semestres étudier dans une université étrangère de l'un des 45 pays du monde qui sont des partenaires de l'Université Charles. Pas étonnant que le jour anniversaire de sa fondation le 7 avril a été institué comme une journée marquante de la République tchèque, celle de l'érudition nationale.
Et c'est par ce petit détour à l'Université Charles de Prague que se terminent ces faits et événements. Tout de suite, place au sport, ce sera juste après le jingle.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Sport à la mode et en plein boom, comme l'a prouvé le succès populaire de la Coupe du Monde en France en septembre dernier, Très loin de l'anonymat dans laquelle s'était déroulée la première édition 20 ans plus tôt, le rugby n'en reste pas moins un sport mineur dans de nombreuses régions de la planète et dans la majorité des pays d'Europe centrale et orientale, y compris en République tchèque. Il n'empêche, séduite par son image, ses valeurs, son potentiel d'attractivité et le spectacle proposé, la télévision publique tchèque a diffusé pour la première fois plusieurs matchs de la dernière Coupe du Monde avant de récidiver lors du récent tournoi Destination, preuve que l'intérêt du public existe bel et bien. Dans la pratique toutefois, confinée dans l'anonymat, très loin derrière le football, le hockey sur glace et bien d'autres sports collectifs encore, le rugby demeure avant tout une affaire de passionnés en République tchèque. Dans les pays de tradition rugbystique, notamment en France, ils sont pourtant quelques-uns à penser que le développement du rugby mondial passe par l'Europe de l'Est. J'en suis absolument certain, affirme même Hugues Henry, un Français originaire du Sud-Ouest, ancien joueur et entraîneur du Stade français, professionnel du sport, aujourd'hui à l'origine d'un projet privé baptisé Est Rugby, dont l'objectif est de contribuer au développement du rugby en Europe orientale et d'abord en République tchèque. Hugues Henry, que nous avons récemment reçu dans nos studios, où il est venu nous expliquer plus en détail ce qu'est Est Rugby. Voici donc la première partie de ce long entretien.
Ben, tout simplement, c'est une façon d'essayer de promouvoir un sport qui nous est cher en France, qui est un sport de passion, où il y a eu toujours les Français contre les Anglais ou l'hémisphère nord contre l'hémisphère sud. Et aujourd'hui, il se passe énormément de choses en Europe centrale et en Europe un peu plus à l'est. Voilà, donc c'était tout un tas de passionnés qui essayent de se débattre dans leur coin, dans un sport qui n'est absolument pas reconnu chez eux et qu'on va aider en termes de formation d'entraîneurs et qu'on va aider de mettre un petit peu plus en avant.
Autre question presque évidente, pourquoi vouloir s'intéresser au rugby dans les pays d'Europe centrale et orientale, où on sait qu'il s'agit d'un sport mineur, très loin en termes de popularité et de pratique, derrière tous ou presque tous les autres sports collectifs? Alors pourquoi s'intéresser à l'Europe de l'Est?
Mais d'abord, est-ce qu'il doit rester si minoritaire et si loin? C'est la première question. Et l'autre, c'est juste une question de famille, au sens un petit peu large. C'est-à-dire, quand on est chez nous, le rugby, en France, il y a eu des pionniers dans les années 60, dans des régions un peu difficiles, comme Paris, où c'était pas reconnu, c'était très loin, des situations minoritaires. Mais aujourd'hui, le rugby français est en pleine explosion, se développe très vite, à la fois au niveau national et dans son audience internationale. Et quand on regarde ce qui se passe par ici, on s'aperçoit simplement qu'il y a des gens vraiment passionnés, mais qui sont un petit peu seuls dans leur coin et absolument pas reconnus. Donc c'est une façon de dire, ben, on partage la même passion, ils sont très loin, et comment on peut leur tendre la main en termes de compétences, comment on peut essayer d'apporter quelques compétences sportives à ces gens-là pour que, ben, progressivement, le niveau s'élève. C'est-à-dire, on a été minoritaire chez nous, on l'est toujours, mais beaucoup moins quand même. Ils le sont très très minoritaires chez eux. On est un peu dans les mêmes combats et c'est la même famille, donc tendons-nous la main.
De ces passionnés tchèques de rugby, on parlera un peu plus tard. On va revenir à un élément que vous avez évoqué dans votre première réponse. L'histoire du rugby mondial, les résultats de la Coupe du Monde le prouvent, se résume finalement depuis toujours ou presque à une confrontation entre deux hémisphères, le Nord et le Sud. Pensez-vous que le développement du rugby mondial passe par l'Est de l'Europe?
Moi, j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain parce que quand on prend des sports comme le football qui essayent de mettre des gros moyens sur l'Asie, par exemple, actuellement, pour essayer d'aller plus loin dans leur développement, le rugby aura quelques difficultés parce qu'il y a quand même des points de passage obligés en rugby, essentiellement des données qui sont d'ordre physique. Voilà. Et moi, je suis absolument persuadé que sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, toute cette partie-là, cette nouvelle Europe, celle qui entre aujourd'hui dans la communauté, il y a un très très gros potentiel. Et on voit arriver des pays qui avaient déjà une culture rugby forte, hein, je pense à la Roumanie, à la Géorgie, mais qui ont un modèle de développement basé sur l'externe, puisque leurs joueurs s'en vont, ils jouent en France, ils reviennent dans l'équipe nationale qui donne une bonne équipe nationale, mais il n'y a pas grand-chose derrière. L'idée ici, c'est de dire, essayons d'élever le niveau du championnat. Et il faut essayer d'élever sportivement le niveau du championnat, tant mieux si des joueurs vont jouer en France après, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'élever le niveau général d'un championnat, le niveau des joueurs, pour justement donner une équipe nationale un peu plus forte, dont on parle un peu plus, et un niveau de championnat intéressant.
Alors justement, vous l'avez évoqué, le rugby à l'Est, il y a quand même la Géorgie, la Roumanie, à un degré moindre la Russie. Pourquoi ne pas avoir choisi ces pays-là, qui ont également besoin d'aide, et éventuellement continuer à les faire progresser? Et pourquoi vous êtes-vous intéressé plus spécialement à la République tchèque?
Bon, parce que culturellement, il y a déjà des liens très fréquents entre la France, la Roumanie, la France, la Géorgie. En Coupe du Monde, je crois 100% des joueurs géorgiens jouaient dans les championnats français. La Roumanie, c'est pas loin d'être pareil. Je dis pas qu'il n'y a pas besoin, mais il y a déjà un certain nombre de gens qui sont penchés dans un modèle de développement qui nous correspondait un peu moins, qui était on prend des joueurs, on les fait jouer en France. Nous, on voudrait essayer de faire autrement. C'est de former des entraîneurs, de former des encadrants, de monter des oppositions de jeu, etc., etc., pour pouvoir tirer un championnat. Voilà. Il se passait des choses dans ces pays, ça se passe très bien. Il y a la FIRA, AER, avec son président, Monsieur Baquet, qui fait un énorme travail de développement sur toutes ces zones-là. Voilà, simplement, East Rugby, c'est une initiative privée qui a envie à la fois d'aider et de se faire plaisir.
Et pourquoi avoir choisi la Tchéquie? Pourquoi pas avoir choisi l'Ukraine, la Russie, où le rugby est vivant aussi? Et il y a d'autres pays également, on pense à la Pologne, la Slovaquie, même si c'est vrai, le rugby est encore moins pratiqué qu'en République tchèque. Alors pourquoi la Tchéquie?
Bah là, c'est des coups de cœur, par contre. Là, à un moment donné, il faut décider par où on commence, parce que l'idée, c'est quand même d'associer 2, 3, 4 pays rapidement aux opérations. Mais après, il faut bien commencer quelque part pour être crédible. Il faut avoir des opérations intéressantes, viables, fiables. Et donc, il fallait choisir le premier point de destination. Et après, c'est des coups de cœur, c'est quelques soirées passées sur Internet à regarder ce qui se passait dans ces pays-là et de voir qu'en République tchèque, d'abord, le rugby a plus de 80 ans, le Slavia vient de fêter ses 80 ans, même si c'est pas très connu dans le pays, il y a quand même une histoire. Le rugby en lui-même a une histoire, il y a des gens impliqués, implantés, et puis familialement, mon épouse est originaire de ces régions, donc on s'en est pas trop soucié pendant longtemps. Et puis, l'âge arrivant, elle a commencé à regarder un peu vers ses racines et autres, et voilà, donc j'ai un fils qui était aussi potentiellement, qui pouvait potentiellement jouer pour la Slovaquie, par exemple. Voilà, donc ça m'a permis de regarder, de me poser des questions, ce qui se passait par là. Il fallait choisir un premier point de chute, c'est ici.
Voilà, c'était donc Hugues Henry, responsable d'Est Rugby, projet d'aide au développement du rugby tchèque. Vous pourrez entendre la suite de l'entretien dans de prochaines rubriques sportives. Merci de votre attention.
Merci à Guillaume pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive tchèque. On termine comme promis en musique en compagnie de Václav.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Aujourd'hui, je vais vous présenter un ensemble qui peut se vanter d'une longue tradition. Dans les années 30 du XXe siècle, le pianiste Josef Paleníček, le violoniste Alexandre Plocek et le violoncelliste František Smetana séjournent à Paris et admirent l'art des grands interprètes de ce temps-là, Courtois, Thibaud et Casals. Inspirés par l'art de ces artistes incomparables, les musiciens tchèques forment un ensemble qui s'appelle d'abord Trio Smetana pour devenir plus tard Trio Tchèque. Pour beaucoup, les concerts de cet ensemble resteront inoubliables. Après la mort de Josef Paleníček en 1991, c'est son fils, le violoncelliste Jan Paleníček, qui prend le relais. Avec sa femme, la pianiste Jitka Čechová et la violoniste Jana Nováková, il crée un nouveau trio Smetana qui ne tarde pas à s'imposer parmi les meilleurs ensembles de chambre tchèque. Chacun de ces trois artistes joue aussi bien en trio qu'en soliste, comme le faisait d'ailleurs déjà leur célèbre prédécesseur dans cet ensemble. Leur art réveille bientôt l'attention à l'étranger et leur apporte des distinctions internationales. Leur album des trios d'Antonin Dvořák remporte en 2006 le Diapason d'or en France et le BBC Music Magazine le qualifie en septembre de la même année d'enregistrement du mois. Voici dans l'interprétation du trio Smetana l'élégie de Josef Suk, œuvre écrite en 1902 sous l'impression de la lecture de Vyšehrad, ainsi que du poème de Julius Zeyer dans lequel le poète évoque l'histoire la plus ancienne du peuple tchèque. La composition pour violon, violoncelle, harmonium et harpe est adaptée aussitôt par le compositeur pour un trio avec piano. C'est sous cette forme que l'œuvre sera finalement éditée et entrera dans le répertoire du trio Smetana. C'était donc un fragment de l'élégie de Joseph Souk, interprété par le trio Smetana. Merci d'avoir suivi cette émission qui vous a été proposée par Václav Richter.
Et c'est déjà la fin du programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz, www.radio.cz. Sinon, à demain, même heure, même fréquence. Salut.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400.